preview de ce qu'on va voir. C'est un chapitre lié à nos troisième chapitre sur Perek Nun Bet, sur le chapitre 52. Et on va commencer à 9 lignes depuis le bas de la page. Donc ça commence Mea Moach Hanal ou Mekor. Donc je vais expliquer brièvement de quoi on a parlé. D'accord ? Et comme ce que j'ai expliqué la semaine dernière, j'ai prévu la semaine dernière que ce chapitre était
très difficile.
Un chapitre très difficile. Et c'est ce qu'on a vu la semaine dernière et la semaine d'avant, c'était seulement un preview. D'accord ? C'est seulement un preview de ce qu'on va voir. C'est un chapitre qui est très difficile. Je pense même que c'est le chapitre le plus difficile de Tania. Enfin, en tout cas, de ce que je pense.
De ton expérience.
Peut-être j'ai pas encore tout vu, mais peut-être il y a des choses qui paraissent simples et qui sont compliquées. Mais mon expérience, en tout cas en préparant, c'est un chapitre très compliqué. Pourquoi c'est un chapitre très compliqué ? Parce que c'est un chapitre qui parle sur une question existentielle sur laquelle, en vérité, on ne peut pas réellement avoir de réponse. La question existentielle qu'on a posée depuis le début, c'est comment, d'un côté, tu me dis que Dieu est infini et que Dieu est partout le même, de la même manière, et que finalement, Dieu, ça ne lui change pas grand-chose si on fait une mitzvah ou une avéra. Finalement, comment nous, on va être déplacé à un pion chaque Kadosh Baruch Hu. Et d'un autre côté, tu me dis qu'il y a certains endroits dans le monde qui ont plus de gdusha que d'autres. Tu me dis, tu fais une mitzvah, tu fais plaisir à Dieu. Tu fais une avéra, tu fais pas plaisir à Dieu. D'accord ? Donc c'est la grande question, et c'est un grand paradoxe. D'accord ? C'est un grand paradoxe qui dérange pas seulement les hommes de loi et les hommes de foi. Mais c'est un paradoxe aussi qui fait que des fois, des gens ont du mal à avancer dans Torah et mitzvah, ils ont du mal à faire teshuva, parce qu'il y a ce point-là qui les dérange. On peut pas réellement répondre à la question à 100%. Mais on peut avoir des éléments de réponse. Mais même les éléments de réponse sont des éléments qui sont très compliqués. Pour avoir les éléments de réponse, on a expliqué dans le chapitre 51 que pour comprendre ce qui se passe, pour comprendre, essayer de comprendre ce qui se passe au niveau d'Akadosh Baruch Hu, donc pour essayer de comprendre comment d'un côté, ben Akadosh Baruch Hu, pour lui, tout le monde est la même chose, et tout le monde est tout, et tout le monde est rien. C'est-à-dire qu'en vérité, c'est pas parce que tu vas faire une mitzvah que tu vas changer grand-chose. Et d'un autre côté, tu me dis qu'il y a des endroits qui sont plus Kadosh que d'autres. Donc dans les mots du Tania, on a appelé ça la Shrina. D'accord ? Je sais que je ne l'ai pas exprimé comme ça avant. Mais dans les mots du Tania... Voilà. Dans les mots du Tania, la manière comment le Tania a formulé la question, soit... Il a formulé la question en se posant la question, comment ça se fait que... Il a posé cette même question que je viens de poser. La question que j'ai posée, comment, bonsoir. Comment d'un côté tu me dis que à Kadosh Baruch Hu, ça ne lui change rien si on fait une mitzvah ou une avera. Ça ne lui change rien du tout. D'accord ? Un tzadakta matitenlo verabu pesha'echa mataaselo. D'un côté, pour Akadosh Baruch, ça lui change rien, mitzvah ou avera qu'on fait. Et d'un autre côté, tu me dis que tu fais une mitzvah, c'est bien, tu fais une avera, c'est pas bien. Bon. Donc comment l'Admor HaZaken a formulé cette question ? L'Admor HaZaken a formulé cette question autour de la notion de la shrina. Comment d'un côté on nous dit que mlo kola aret kvodo, Akadosh Baruch Hu se trouve partout, et a priori se trouve partout de la même manière, peu importe où on se trouve. Et d'un autre côté, tu me dis qu'il y a des endroits dans lesquels Akadosh Baruch Hu est plus présent que d'autres. Par exemple, on sait que Kodesh HaKodashim, au sein des saints, qui se trouve à Yerushalayim, Akadosh Baruch Hu était... On va lui ouvrir la porte, s'il te plaît. Akadosh Baruch Hu était le plus... D'accord ? Et Akadosh Baruch Hu était le plus présent. Donc, comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est un paradoxe, en vérité, qui dérange tout le monde, ce paradoxe-là. Comment on essaye de répondre à cette question ? On a expliqué dans le chapitre 51 que Mipsari et Chézé est le cas. Que lorsqu'on a du mal à comprendre quelque chose au niveau d'Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu nous a donné la chance que lorsqu'on analyse comment les choses se passent chez nous, d'accord, on peut exporter ça entre guillemets à Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que si j'ai du mal à comprendre un certain phénomène, des fois la réponse qu'on explique souvent en Kabbalah, c'est que la réponse se trouve en nous. Quand on n'arrive pas à comprendre certaines choses qui se passent dans le monde, on va analyser comment la chose se trouve en nous, et par rapport à ça, on va comprendre comment la chose se passe dans le plan général d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi ? Parce que c'est un point que le Zohar répète souvent, mais qui est écrit en vérité plusieurs fois dans la Gemara, dans le Midrash, que Akadosh Baruch Hu a créé l'homme à l'image du... Akadosh Baruch Hu a créé l'homme à son image. D'accord ? Et qu'on dit que, on dit, c'est répété plusieurs fois, que l'homme est un, d'accord, Olam Katan, un petit monde. Pour expliquer que la structure comment Akadosh Baruch Hu a créé l'homme ressemble beaucoup et presque la même que la structure avec laquelle Akadosh Baruch Hu a créé le monde. Et ce qu'expliquait l'Admor HaZaken dans le chapitre 51, c'est qu'on retrouve ce même paradoxe dans le corps humain. Le même paradoxe que je viens d'expliquer. Comment d'un côté, dans le corps humain, donc dans la liaison qu'il y a, d'accord, dans le rapport qu'il y a entre l'âme et le corps, d'un côté, on a l'impression que l'âme est présente partout dans le corps de la même manière, et qu'il n'y a pas un membre qui reçoit plus que l'autre. Donc ça, c'est ce qu'on a appelé le canal Atzmout, qu'on a expliqué longuement. Et d'un autre côté, on a l'impression, et c'est pas faux, qu'il y a certains membres qui ont besoin de plus d'énergie que d'autres. D'accord ? Donc, si on avait expliqué, c'est évident que le cœur ne reçoit pas la même énergie que le pied. C'est évident que des membres plus vitaux vont recevoir plus d'énergie. Bon. Donc, d'un côté, on a l'impression que là, c'est la même neshama pour tout le monde. Et d'un autre côté, on a l'impression que ça va être dédié. Qu'est-ce qu'expliquait la Gemara Zakaïn ? La Gemara Zakaïn avait expliqué qu'en vérité, il n'y a pas de contradiction. C'est deux canaux différents, deux canaux distincts. Et c'est là donc la logique des trois paliers, des trois étapes qu'on a expliquées la semaine dernière et avant Pessah. Qu'est-ce qu'on a expliqué ? La logique des trois paliers. On a dit que tout d'abord, le premier palier, c'est l'essence de la neshama. Vous vous rappelez ? L'essence de la neshama, on a dit que celui-là, il est présent partout dans le corps de la même manière. Il n'y a pas un membre qui peut prétendre, d'accord, avoir plus de neshama que l'autre. Ça, c'est l'essence de la neshama. Ensuite, on a expliqué que ça passe par le cerveau, le moar. Le moar va être le centre nerveux, d'accord, le centre nerveux du corps. Et c'est lui qui va redistribuer le deuxième canal. C'est quoi le deuxième canal ? Le deuxième canal, on a expliqué, c'est l'énergie dédiée. Donc, qui ne va pas être la même pour chacun des membres. Ce qu'a expliqué la Gemara Zakaïn, ce qu'on a expliqué la semaine dernière longuement, c'est que de la même manière, c'est la même chose qu'Akadosh Baruch Hu a fait lorsqu'il a créé le monde. On a le canal de l'essence d'Akadosh Baruch Hu. L'essence d'Akadosh Baruch Hu, par rapport à ce canal, il n'y a pas de différence entre toutes les créatures. Comme on l'a expliqué la semaine dernière, enfin, comme ce que le Rav Sinzal a dit, il a dit que même une créature morte, c'est déjà une créature. Et elle contient l'essence d'Akadosh Baruch Hu autant qu'une créature vivante en train de courir. C'est la même chose. Par rapport à l'essence d'Akadosh Baruch Hu, le fait qu'on existe, c'est déjà l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Mais après, il y a le canal dédié. Le canal dédié, c'est ce qui va faire que, dans le canal dédié, il y a certains endroits dans lesquels Akadosh Baruch Hu est plus présent que d'autres. C'est bien. Pour arriver à ce canal dédié, rappelez-vous comment c'est dans le corps, on est passé par le cerveau. Donc rappelez-vous, il y a l'essence qui est présente partout, et il y a le deuxième canal qui est dédié. Pour arriver à ce canal, on a dit qu'on passe par le cerveau. Maintenant, on va expliquer spirituellement le cerveau, c'est quoi le cerveau chez Akadosh Baruch Hu. Alors, on va reprendre 9 lignes depuis le bas de la page, 144. On prend un Umekorze. Enfin, comme je l'ai dit, on aura énormément de notions de Kabbalah. Si on ferait un concours de chapitres qui a le plus de notions de Kabbalah dans Tania, je pense que celui-là, il peut gagner haut la main, très haut la main. Vous allez voir, on va s'éclater. Hein, ceux qui sont amateurs de Kabbalah, Yaakov, déjà, il est content.
Non, c'est Yaakov, hein.
J'espère que j'ai tout compris et j'espère que je vais être capable de juste expliquer. Parce qu'il y a beaucoup de notions très compliquées. Bon. Alors, on prend Umekorze. Umekorze, Uanikra, Alma Deit Galia, Matronita, Veima Tata'a, Shrina. Donc rappelez-vous les deux canaux. Il y a un canal qui s'appelle Atzmut. Par rapport à ce canal-là, qu'on fasse une mitzvah, qu'on fasse une avera, ou qu'on fasse ni l'un ni l'autre, ça ne change rien. Par rapport à ce canal-là, Akadosh Baruch Hu, ça ne lui change rien. C'est-à-dire que c'est pas qu'il va être plus près ou moins près de nous. Ça n'existe pas. Ça, c'est le canal de Hatzmut. Mais le canal, en général, avec lequel on discute, entre guillemets, avec Akadosh Baruch Hu, c'est pas du tout le canal de Hatzmut. Bien sûr que de temps en temps, en Chassidut, on va venir, on va nous rappeler qu'un juif, il doit savoir que quoi qu'il a fait, de toutes les façons, il est toujours juif, etc. Bien sûr. Mais avec ce canal-là, on ne discute pas avec Akadosh Baruch Hu, parce qu'on te dit que quoi qu'il arrive, tu es toujours juif. Bon, ok, je fais quoi alors ? Je fais quoi avec ça ? Tu fais rien avec ça. La majorité du temps, on va communiquer avec Akadosh Baruch Hu au travers du deuxième canal, au travers du canal dédié, qui dit que Ma'asecha ekarvucha ou Ma'asecha irachikucha. Que c'est nos actions, comme la Gemara Brachot, elle dit que c'est nos actions qui nous approchent d'Akadosh Baruch Hu et c'est nos actions qui nous éloignent d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est le deuxième canal. Alors, ici, la Gemara Zakaïn nous amène quatre noms, donc quatre adjectifs, et c'est pas des synonymes, parce que c'est quatre adjectifs qui vont exprimer à chaque fois une qualité différente, pour exprimer ce deuxième canal. Donc je vais les traduire. Je les ai traduits la semaine dernière, mais la semaine dernière, on ne les a pas développés à la fin du cours. Quatre notions. Alma Deit Galia. Alma Deit Galia, ça veut dire le monde dévoilé.
Puis on le connaissait.
Le monde dévoilé, comme si il y a des mondes cachés, des mondes dévoilés. Bon.
Je vais avoir au d'accord. Qui était venu, comment il s'appelle ? Morozov,
le... Oui, ah, la fois où j'étais parti au Kremlin, oui. Oh, à Vernon, oui.
Alma
Deit Kassia.
Deit Kassia, ça quoi mais... enfin, je voulais dire, oui, il y a aussi Alma, il m'a dit, non, c'est l'Alma, je sais pas quoi, il m'a donné notre...
Ah, il y avait Deit Kassia, Itafra,
vous avez... Moi, je connaissais, je crois, Itafra, vous l'avez vu.
C'est ça,
Deit Kassia, Itafra et Deit Kassia.
Il y en a un qui ne connaît pas Deit Kassia, peut-être. Il y en a un qui m'a donné... C'était l'autre qui l'a sorti. Oui, non.
Alors, on va voir les...
Je voulais faire cavode à notre prof. Donc, on a appris des trucs. a été un bon élève.
Hein. Shabbat shalom. C'est Tania, avant de commencer à comprendre, il faut le passer au moins 3-4 fois, à mon avis. Hein.
Ah, bah le cracher, je suis pas gênant.
On mange des choses, je ne sais même pas c'est quoi les brachot, je t'assure, c'est des trucs. C'est quoi ça?
C'est ça ressemble à des pommes de terre.
C'est chacol.
Chacol, ouais.
C'est tout, chacol. On en a fait chacol. Mais ça, tu sais, c'est quoi ça? Tortillas?
C'est du maïs.
C'est du maïs? Alors, Adama, tu crois qu'on fait Adama? Je vois pas Adama, moi, là-dedans.
Adem, hein.
Bon. Il devrait imposer un label que le rabbin, lorsqu'il met la cacheroute,
il
met aussi la bracha. Ouais. Pas, pas partout, mais sur les, ouais, sur les produits. Pas toujours. Ouais. Birkato, Maisonneuve, Birkato. Même sur les vins, ils mettent aussi badat. Parce qu'il y a des vins hein, où il y a trop de sucre, et selon les Sfaradis, on ne peut pas faire Boré Périn Guéphen. Les marques disent Boré Périn Guéphen, selon les Sfaradis, selon les
Ashkenazis.
Les
Nazis encore pire. Hein.
Alors
au niveau de la façon dont c'est coupé, qu'ils ne peuvent pas faire un Guéphen.
Oui, mais...
On a un niveau qui est plus bas.
Oui, mais chez les Ashkenazim, c'est du sucre, c'est plus marmire. Chez le Beth Yosef, c'est plus marmire.
Ah bon voilà.
Alors, si je ne me trompe pas. Hein. Donc, on était en train de dire que ce canal dédié, il a quatre noms. Revenons à notre sujet. Quatre noms, quatre adjectifs, qui vont exprimer chacun quatre notions différentes. C'est quoi les quatre noms? Je les traduis. Premier nom, c'est Alma Deit Galia, le monde dévoilé. Deuxième nom que le Zohar nous amène, c'est Matronita. Matronita, on a expliqué la semaine dernière, c'est une reine, c'est une personne qui est notable. Troisième terme qui dit le Zohar, c'est Imatata, la mère d'en bas. D'accord? Donc la mère. La mère, maman. Et quatrième terme qui nous dit, ça c'est un terme qui ramène aussi dans le Zohar, c'est Shrina, résider. Donc c'est quatre termes qui représentent chacun quelque chose de différent. Comme ce qu'on va expliquer ici. Le premier terme représente la Alma Deit Galia, ça veut dire quoi Alma? Donc il va expliquer, je vais essayer de m'en expliquer. Non, les mots. Il dit. Donc là, l'Admor HaZaken va expliquer comment chacun de ces quatre termes correspond à quelque chose de différent. Alchen. Chez Mekorze ou Reshit Idgalut Orensov. Donc, ce canal dédié, il va démarrer par. Oui. Milachan, j'ai pas dit Vesharni Betora. D'accord. Milachan Vesharni Betora. Très bien.
Bon. Celui-là, il a donné la raison.
On va voir. Il va expliquer les quatre. Donc rappelez-vous, là on est en train d'expliquer, c'est qu'on a le but où on veut arriver maintenant, on veut essayer d'expliquer c'est quoi le cerveau, de la même manière que dans notre corps on a compris, que pour le canal dédié, il y a un cerveau, et lorsque le cerveau ne va pas, ça ne va pas, donc il faut aller chercher au cerveau. Donc on essaie de chercher c'est quoi le cerveau du monde. Ce qu'il va expliquer en vérité, c'est que à chaque étape de notre vie, on va retrouver un cerveau. C'est très intéressant qu'on va expliquer, je ne pense pas qu'on aura le temps d'arriver à ça aujourd'hui, mais on va essayer. Donc, nous maintenant, donc il va nous expliquer c'est quoi le rôle de ce cerveau. Le rôle de ce cerveau a quatre rôles. Il va être celui qui va commencer le dévoilement, il va être la reine, il va être la mère, et il va être Shrina, il va résider. Et ça représente quatre notions complètement différentes. Le premier représente le dévoilement, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont cachées, et progressivement on va commencer à nous les montrer. Le deuxième, il va représenter Matronita, c'est la royauté. La royauté, ça veut dire que c'est lui qui gère tout, c'est le patron. Le troisième va représenter la mère. C'est quoi la mère? D'accord, la mère, chaque fois qu'on parle de la mère en général, ça veut dire, pardon?
Nourricière.
Nourricière, c'est celle qui va s'occuper de chaque détail. Qui va s'occuper de chaque détail. D'accord? Et enfin, le quatrième élément, Shrina. Shrina, on va aller complètement de l'autre sens. Shrina, quand on dit que quelque chose réside sur moi, que quelque chose est présent sur moi, c'est des fois on peut ressentir certaines choses qu'on n'est pas capable d'expliquer. Et ça, c'est quatre notions qu'on va retrouver, qu'on va expliquer. Au niveau des mochil, au niveau de l'intellect d'Akadosh Baruch Hu, d'accord? Donc au niveau, ce qu'on va expliquer, au niveau de la Torah.
D'accord?
Non. Ce qu'il va expliquer ici. On va expliquer longuement. D'accord? Donc là, je vous explique déjà, on est en train d'expliquer c'est quoi le rôle de la Torah. On va arriver dans la suite, on va expliquer que Torah et Mitzvot, c'est le cerveau d'Akadosh Baruch Hu. Et que tout doit passer par le cerveau. Et que sans le cerveau, on n'a rien du tout. C'est ce qui va arriver. Mais là, il va nous expliquer que dans le Torah, on retrouve quatre termes. Il va dire dans les mots. Hachem, chez mes corze, ou reshit idgalut ensof, idgalut or ensof, très important, Asher, mamshir ou meir leolamot, d'accord, donc premièrement, pourquoi, rappelez-vous, c'est quoi la première notion qu'on a dit? La première notion qu'on a dit, c'est Alma deit Galia, le monde dévoilé. Ça veut dire quoi le monde dévoilé? C'est-à-dire qu'il y a des mondes cachés? Non. Ça veut dire quoi? C'est pourquoi on appelle ça le monde dévoilé? Parce que c'est à partir de cette étape-là, que Reshit Idgalut Orensov, c'est à partir de cette étape-là qu'on va commencer à que l'infini, que Dieu va commencer à se dévoiler, qu'on va commencer à le percevoir. Je ne dis pas que nous, les humains, on va être capables de le voir, mais par exemple, les tzadikim, à partir de ce stade-là, peuvent déjà commencer à voir quelque chose. Donc on va commencer à mesurer ça en dévoilement. Donc ça, c'est Alma Deit Galia, le monde du dévoilement. Deuxième définition qu'on a dit, c'est quoi ? Matronita, la reine. Hachem, Asher, Mamshir ou Meir Leolamot, Biprina Dilouy. C'est lui qui va commencer à distribuer et à éclairer au monde Biprina Dilouy en dévoilement. Donc ça, c'est la reine. C'est quoi le rôle du roi ? Le rôle du roi, c'est d'être le patron et de dire à toi je donne, à toi je donne pas, et à qui je donne et combien je donne. D'accord ? Donc ce qu'on appellera après Malchut de Atzilut, c'est-à-dire le plus haut niveau qui peut exister, le plus haut niveau du dévoilement, le plus haut niveau que le Moshe Rabbeinu a pu donc découvrir, c'est, premièrement, on a expliqué, c'est de commencer à dévoiler. Donc c'est le début du dévoilement. Deuxièmement, d'accord, c'est celui qui va commencer à distribuer. De la même manière que le cerveau, on a expliqué que le cerveau va redistribuer l'énergie. Non, il ne va pas distribuer la même chose à tout le monde. D'accord ? Il va distribuer un peu plus, un peu moins. C'est le cerveau. Donc de la même manière, dans la Kabbalah, on appelle beaucoup la reine. La reine, pourquoi ? Pour expliquer que ça, c'est une distribution. Troisième notion qu'on a dit, c'est quoi ? C'était Ima Tata, la maman. Pourquoi la maman ? Quel rapport à la maman ?
C'est féminin.
Pourquoi c'est féminin ? Parce que le cerveau...
A priori, la femme, c'est plutôt Mekabel, c'est pas Noten, c'est pas Mashpia.
Ce qu'on explique en Kabbalah, hein, qu'en vérité... Tu peux fermer la porte, s'il te plaît ? Pardon. C'est que le cerveau, ici, dans notre cas, il va faire que redistribuer quelque chose qui est plus haut que lui. Il va faire qu'adapter quelque chose qui est plus haut que lui.
C'est par rapport à ça qu'on dit.
Voilà, c'est pour ça qu'on amène la chaîne Nekeva. Pour dire qu'en vérité, il n'a rien qui lui appartient. Ouais. Troisième définition qu'on a dit, c'est quoi ? D'accord ? Multiplexage ?
C'est multiplexage.
On va y arriver. Troisième notion qu'on a dit, c'est quoi ? D'accord ? Troisième notion qu'on a dit, c'est quoi ? On a dit Imatata, la mer. Alors, chaque fois qu'on parle de la mer, ça représente quoi, on a dit ? La mer, ça représente le côté nourri. Nourricier, d'accord ? Comment on expliquait ? Alors, c'est quoi le... Ça, c'est le rabbi qui explique comme ça, hein, l'Almorazaken. L'Almorazaken ne dit pas clairement ce que je suis en train de dire. Donc, « Umime korze, nimshach lechol echad, aor vechayut prati araoulo. » À partir de Malchut de Atzilut, donc à partir ce que j'expliquais, donc du cerveau d'Akadosh Baruch Hu, qu'on expliquera plus tard, c'est la Torah, c'est lui qui va redistribuer à chacun exactement ce qu'il a besoin. Et ça, c'est la mère. D'accord ? On dit que la mère, c'est elle qui sait exactement... Qu'est-ce qu'a besoin chacun de ses enfants ? Et dans la Kabbalah, quand on parle de la Shrina, d'accord ? On parle aussi, on l'appelle souvent la mère. Quatrième notion.
La matrone.
D'accord ? Non, la matrone, c'était avant.
Il y a deux parts. La matrone, c'est la Ima. C'est juste avant. Hein.
Il y a la matrice et il y a la matrone. Oui, il a révisé.
Il faut les enlever à graines, hein ?
Veshochen ou mitlabesh betocham lehachayotam. D'accord ? Donc qu'est-ce qu'il explique ici ? Il va expliquer que donc la Shrina, donc quatre éléments qu'on retrouve à propos donc de cette fameuse Shrina, donc du cerveau d'Akadosh Baruch Hu qu'on expliquera tout de suite. Quatre éléments, quatre définitions. Première définition, c'est que c'est le début du dévoilement, c'est-à-dire que c'est à partir de là qu'on va commencer à voir quelque chose. Avant ça, on ne voit pas. Avant ça, ça ne s'exprime pas par ce que je comprends, ce que je ne comprends pas. Donc le début du canal dédié, c'est là. Donc c'est pour ça qu'on va appeler ça Alma Deit Galia. Donc c'est le début du dévoilement. Deuxièmement, il y aura le côté reine, le côté royauté, ça veut dire que c'est lui qui décide à qui il va donner et à qui il ne donne pas. Troisièmement, donc ça c'est Matronita, David. Hein. Troisièmement, on a expliqué, il y a le côté maternel, ça veut dire qu'il va distribuer à chacun ce qu'il a besoin, et donc chacun exactement ce qu'il a besoin. Donc ça c'est le Imatata, la mère. Et quatrième définition, c'est quoi ? C'est Shrina. C'est pour expliquer que finalement, ça sera toujours quelque chose qui réside sur nous, quelque chose qui est présent sur nous, mais qu'on ne pourra jamais réellement définir. Il va expliquer. On a beaucoup de définitions ici. Velachen Nikra.
Les quatre notions, c'est quatre notions parallèles ou quatre notions qui s'imbriquent ?
Quatre notions parallèles.
Parce que tu disais d'abord Idgalia, et ensuite...
Alors, justement... Le Zohar, dans d'autres endroits,
on a l'impression que l'un déclenche l'autre.
Pour expliquer que les quatre se complètent, le Zohar nous dit que on peut apparenter ça à la mer. De la même manière que nous, on sait que tous les fleuves finissent par se déverser vers la mer. Kol Anechalim, enfin, c'est une expression en tout cas qui dit que tous les fleuves se déversent vers la mer. Spirituellement, c'est le contraire. C'est tous les fleuves qui viennent de la mer. C'est-à-dire qu'il y a une seule mer à la base, il y a une seule source. Et cette source, D'accord ? C'est elle qui va distribuer à chacun ce qu'il a besoin. Donc puisque c'est une seule source, eh ben, par rapport à ça, on va retrouver ces quatre définitions qui ne sont pas du tout contradictoires, qui sont quatre définitions parallèles. D'accord ? D'un côté, on a expliqué qu'il y a le côté dévoilement. Deuxièmement, il y a le côté royauté, ça veut dire que je décide à qui je donne et à qui je donne pas. Troisièmement, il y a le côté maternel, ça veut dire que je vais donner à chacun le côté du souci. D'accord ? Je vais me soucier de donner à chacun ce qu'il a besoin. Et quatrièmement, il y a le côté résilié, ça veut dire que c'est comme un enfant, il sait que ses parents s'occupent toujours de lui. On trouve ça aussi beaucoup dans l'éducation. Un enfant, il sait que ses parents pensent à lui, mais il n'est pas capable de le définir. C'est-à-dire, c'est pas, il va dire, comme maman est venue, elle m'a poussé à la couverture, alors je sais qu'elle a pensé à moi. Après, c'est beaucoup plus lent que ça. On sait que les parents pensent à nous, mais on n'est pas capable de définir comment et pourquoi. Ça, c'est ce qu'on va appeler Shrina. C'est-à-dire, tu sais tout ce qui réside sur toi, tout ce qui est présent, mais tu n'es pas capable de le définir en des mots. Tu ne sais pas en quoi ça s'exprime. Une autre notion encore qu'on retrouve, mais qui rejoint ce qu'on a expliqué, Velachen Nikra Emabanim. Où on dit Emabanim? D'accord? Emabanim dans le Betset Israël qu'on dit, donc le deuxième paragraphe du Hallel. Emabanim Semecha. On dit que la Shrina est appelée également la mère des enfants. La mère. Pourquoi la mère? D'accord? Donc la mère, la maman. Alderech Mashal. D'accord? C'est, maintenant on comprend pourquoi la mère. Pourquoi la mère? Puisque la mère, ça représente le côté du souci. Et c'est intéressant parce que c'est pas que dans le Zohar. Très souvent, on voit que la Shrina, on l'appelle, des fois, on appelle Akadosh Baruch Hu le Père. D'accord? Alors, le Père, en général, c'est une notion de miséricorde. Avarachamal. D'accord? Le Père, en général, dans la Torah, comme on expliquera après, mais ça, on ne va pas s'arrêter sur ça aujourd'hui, ça représente la miséricorde. Mais la mère, ça représente le côté du souci. La mère, c'est elle qui va s'assurer que chaque enfant reçoit exactement ce qu'il a besoin. Ou Knesset Israël. Pour rejoindre, alors justement.
Mais Emma Banim.
Oui.
C'est pas la Shrina, Shrina c'est autre chose.
Très bien, on va expliquer.
Comment Emma Banim sur Shrina alors qu'on est dans l'Imatata?
C'est parce qu'en vérité, c'est les quatre qui proviennent de la même source. Mais après, selon ce qu'on va recevoir, ça va s'exprimer de différentes manières. Mais il va expliquer ça, l'Admor Zaket. D'accord. Alors, il y a aussi un autre terme qu'on appelle souvent, Knesset Israël. Quand on veut parler de la source des Neshamot Israël, comment on appelle ça? On appelle ça Knesset Israël. Knesset Israël, en hébreu, ça veut dire quoi? L'Assemblée d'Israël. Pourquoi l'Assemblée d'Israël? Pourquoi ce terme assemblée? D'accord? Et là, on rejoint à ce que j'ai dit tout à l'heure à M. Bellassen, c'est qu'en vérité, même si des fois on a l'impression que dans la Torah, il y a beaucoup de détails, mais finalement, tout finit par retomber vers la même mère, et tout finalement vient de la même mère, Knesset Israël. C'est-à-dire que même si nous, quand on s'imagine Akadosh Baruch Hu, on a des gens qui vont s'imaginer Akadosh Baruch Hu comme un roi qui décide tout. Il y a des gens qui vont s'imaginer Akadosh Baruch Hu comme un roi, comme une mère, enfin, comme quelqu'un qui a le souci du détail. Il y a des gens qui vont s'imaginer Akadosh Baruch Hu comme quelqu'un qui est là au-dessus de nous et qui surveille ce qu'on fait. Il y a d'autres personnes qui vont, je ne les ai pas dit dans l'ordre, il y a d'autres personnes qui vont s'imaginer à Kadosh Baruch Hu comme quelqu'un qui est là de temps en temps pour nous montrer qu'il est présent. Alma de Itgalia. Et la réponse qu'on nous dit, c'est qu'en vérité, c'est Knesset Israël, quand on dit l'Assemblée d'Israël, pour dire qu'en vérité, à Kadosh Baruch Hu, c'est tout ça en même temps. C'est pas, ça ne correspond pas à quatre mondes différents qui vont correspondre à quatre personnes différentes, d'accord, quatre catégories de personnes différentes. En vérité, à Kadosh Baruch Hu, c'est tout ça en même temps. De la même manière qu'on a expliqué qu'au niveau humain, au plan humain, on avait le cerveau, que tout était regroupé dans le cerveau, que c'est le cerveau qui redistribuait tout, et que c'est le cerveau qui va donner l'énergie de la main, c'est le cerveau qui va donner l'énergie du pied, c'est le cerveau qui va donner l'ordre au cœur de fonctionner, c'est le cerveau qui donne les ordres, d'accord? Et bien que c'est des ordres qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre, on est d'accord? C'est des ordres qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre, et pourtant, c'est le cerveau qui donne les ordres. C'est lui qui donne les ordres, tu dois fonctionner, tu ne dois pas fonctionner, d'accord? Donc de la même manière, même si on a l'impression, ce qu'on va expliquer aujourd'hui, c'est que des fois, quand on aura l'impression qu'il y a différentes facettes d'Akadosh Baruch Hu, il y a différentes facettes de la Torah, finalement, toutes ces facettes proviennent d'une seule même source, qui est le cerveau d'Akadosh Baruch Hu, d'accord ? Qui est le cerveau d'Akadosh Baruch Hu qu'on va développer aujourd'hui. La Torah et les mitzvot. Attention, Torah et les mitzvot. Alors, dans les mots, on continue.
C'est bon.
C'est le coca, c'est merci. Est-ce que c'est clair jusqu'à présent? Je vous en prie, arrêtez-moi si c'est pas clair, parce que, comme je l'ai dit la semaine dernière, dans ce Pérec particulièrement, je n'ai pas hésité à arrêter mon rave quand je l'ai appris. Donc je vous demande Yacob, il ne m'a pas arrêté encore. Je sais pas si c'est bon signe ou mauvais signe.
Il ne capte rien, Yacob. Il n'arrive pas, il ne capte rien.
Non, je ne me demandais pas de poser de questions. Je pense pas de questions.
On a dit que là tu pouvais poser.
Il t'a dit
à
non, après il m'a appelé, il m'a dit
que
tu t'es fait.
Ah, non, non. Tu l'avais en offline, on n'est pas au courant. Hein.
Moi non plus, je ne suis pas au courant. Alors, Shemimakorze, Netzlu, Neshamot de Atzilut, Venivreu, Neshamot de Bria. Donc nous, ce qu'on va essayer de trouver et ce qu'on va essayer de développer aujourd'hui, et la semaine prochaine, si Dieu veut, on va essayer de parler donc de cette fameuse source. De la même manière que dans notre corps, on a compris qu'il y a le côté essence, qui lui est présent partout, et il y a un côté dédié qui lui va être contrôlé, d'accord, et pas seulement contrôlé, qui va provenir du cerveau. C'est le cerveau qui va distribuer, c'est le cerveau qui va dire « toi tu prends ci, toi tu prends ça ». Bon, donc on essaie de retrouver ce cerveau chez Akadosh Baruch Hu, dans l'énergie qui va nous arriver ici. Donc, il dit « Shemim Mekorze » de cette source-là, qu'on n'a pas encore nommée, mais comme on a dit, plus tard on expliquera que c'est la Torah et les Mitzvot, de cette source-là, « Netzlu Neshamot de Hatzilut », c'est de là-bas que les âmes de Hatzilut, les âmes des grands tzadikim vont venir, « Venivreu Neshamot de Bria », c'est de là-bas que les Neshamot des moins grands tzadikim vont venir, c'est de cette source-là que tout va venir. Alors tout à l'heure, vous avez dit multiplexage. Ouais. Alors c'est quoi la définition de multiplexage ? Alors, justement, le problème, c'est qu'ici, c'est pas exactement la distribution.
Hein, c'est un routeur, ça. Il a dit c'est un routeur. Ça,
c'est un signal électrique et qui contient en fait une somme de signaux.
Et donc, il faut revenir ou
il faut séparer.
Mais dans le multiplexage, une fois que tu les as séparés.
Voilà, c'est la modulation des modules.
D'accord. Maintenant, le problème que j'ai, c'est que dans le multiplexage, d'accord, donc comme on dit, une prise de multiplex, dans le multiplexage, une fois que tu les as séparés, d'accord, les deux fiches n'ont plus rien à voir l'une avec l'autre.
Chacun
ils sont reliés par le cerveau.
C'est référence.
Bon, on va voir. C'est pas simple.
Multiplex au foot.
D'accord. The Kulam, on va lire quelques lignes encore pour voir où vont venir les Morazaken. The Kulan, Enan Rak Meit Pashtut Achayut Vea Or Mehamakor Azan Ikrashina. Toutes ces expressions qu'on va retrouver par la suite, par exemple. On parle souvent dans le cours de Tania de Hatzilut, Bria, Yetzira, Asiya. Comment, Kadash Baruch Hu, d'un côté on va retrouver le côté créatif, d'accord ? D'un autre côté on va retrouver le côté Yetzira. Donc on a expliqué qu'en vérité c'était, on a expliqué dans le formatrice, d'accord ? Je ne veux pas rentrer dans les détails maintenant, mais dans le chapitre 39, on avait expliqué que c'est différentes expressions d'Akadash Baruch Hu qu'on peut retrouver sur Terre. Et c'est pour ça que vous allez poser la question à deux personnes, de lui dire qu'est-ce qui représente Akadosh Baruch Hu pour toi, c'est pratiquement sûr qu'on n'obtiendra pas la même réponse. Pourtant, on parle du même Akadosh Baruch Hu, on parle du même Dieu. Il nous dit, l'Admor HaZaken, qu'en vérité, toutes ces expressions que nous on va ressentir vont tous venir d'une seule et même source, qui est cette source qu'on est en train de rechercher, qu'on expliquera par la suite, c'est Torah en Mitzvot. Vekulan, Enanrak, Meit Pashtu Taor, Vechayut, Ma Makor Azea Nikra Shrina, Keit Pashtut à Or Minashemesh. Là, il commence à nous donner une définition. D'accord ? Il commence à nous donner une définition, je pense qu'il va nous aider un petit peu. Il donne l'exemple du soleil. De la même manière que le soleil va envoyer donc, la lumière, et que cette lumière après va se répartir. Cette lumière va faire des tas de choses. Cette lumière va être capable de faire pousser des plantes. Cette lumière va être capable d'amener la bonne humeur chez les gens. Cette lumière va être capable aussi de mettre des coups de soleil à des gens. Cette lumière va faire des tas de choses. Cette lumière va amener de l'énergie. D'accord ? Elle va amener des clients au restaurant. Cette lumière va faire beaucoup de choses. D'accord ? Bon. Cette lumière va faire de l'ombre aussi. On est d'accord ? Cette lumière va faire beaucoup de choses. Mais à la base, d'où vient cette lumière ? J'entends David. À la base, d'où vient cette lumière ? Cette lumière vient du soleil. Il y a un seul soleil pour tout le monde. C'est le même soleil pour tout le monde. Mais à ma korazé à nikrashrina, kit pashtut à or mehashemesh. Aval. Alors, où on est dans les mots ? Aval, c'est où ? Donc, on est à la page suivante. Aval. Mais. Ashrina atzma shei reshit agilui veikaro. Mashen sof meir. Leolamot. Beprinat gilui vehi. Mekor kolam shachot achayut shibchol olamot. D'accord ? Je saute les crochets. Yevchar, Leolamot, Lisbol ou les Kabel hors Shekhinata. Donc il nous dit comme ça, de la même manière que dans le soleil. Est-ce que nous, on peut profiter du soleil même ? Du soleil même, on ne pourra jamais profiter. Celui qui s'approche du soleil va brûler, c'est évident. Par contre, des rayons du soleil, du rayonnement du soleil, là, tu pourras profiter. Et là, chacun pourra profiter à sa façon. Chacun pourra profiter ou ne pas profiter à sa façon. Pourra être brûlé, donc pourra être soit éloigné, soit rapproché du soleil. Mais ce qu'il veut expliquer ici, l'Admor HaZaken, c'est quoi ? C'est que du soleil, c'est-à-dire si tu viens prendre la lumière dans le soleil même, tu ne pourras pas te servir. Tu dois obligatoirement t'éloigner du soleil. Et c'est là que tu vas pouvoir recevoir la lumière du soleil. Il y a un exemple qu'on amène souvent en Kabbalah, c'est l'exemple de, on imagine un rayon de lumière qui retournerait au soleil. Imaginez-vous, on prend un miroir, d'accord, un reflet, et imaginez-vous qu'on renverrait, techniquement je ne pense pas que c'est faisable, mais imaginez-vous qu'on prendrait un rayon de soleil qu'on renverrait vers le soleil. D'accord. Qu'est-ce qu'il adviendrait de ce rayon? La réponse qu'on explique en Kabbalah, je ne sais pas comment on explique en physique, hein, le soleil ne bouge pas. Qu'est-ce qu'il adviendrait de ce rayon? Qu'est-ce qu'il deviendrait de ce rayon? Imaginez-vous qu'il y a un rayon qui vient du soleil. D'accord. Je prends ce rayon, je m'arrange pour que le rayon, donc avec un système de réflexion, je vais m'arranger pour que ce rayon retourne vers le soleil. Bon, c'est possible. Il y a une énergie qui descend et qui remonte. Disons, en théorie. D'accord. Qu'est-ce qui se passerait de ce rayon? Qu'est-ce qui devient ce rayon?
Annulé.
D'accord. Qu'est-ce qu'il dit Jacob?
Annulé.
Ah. Ça veut dire quoi annulé? Explique-nous.
Ça veut dire que tu vois plus le rayon.
C'est-à-dire que le rayon n'existe plus. C'est-à-dire que le rayon, une fois qu'il remonte à sa source, il n'existe plus. Le rayon commence à prendre de l'importance, une existence propre, seulement une fois qu'il s'éloigne du soleil. Et plus il s'éloigne du soleil, et plus on a besoin de lui. D'accord ? Plus il prend de l'importance, et il commence à se prendre par quelqu'un. Mais pourtant, pourquoi cet exemple est très important ? Cet exemple est très important parce que même si ce rayon, par la suite, il peut prendre différentes formes, il peut après se représenter dans une étoile, dans la lune, il peut prendre différentes formes. Donc les rayons, le soleil peut prendre différentes formes. Mais nous on sait la réalité des choses, qu'en vérité, tout provient d'un seul et même soleil. Maintenant, ce qui est très important à comprendre, c'est quoi? C'est qu'on ne peut pas profiter du soleil directement. On est obligé de passer par des intermédiaires. Ce qu'on appelle dans la Kabbalah, on en a parlé dans le chapitre 4, je ne sais pas si vous vous rappelez, les levushim. Les vêtements. Rappelez, Gamliel? Alors, c'est quoi un vêtement? Dis-nous ce qu'est un vêtement.
Je me rappelle, ça veut dire quand quelqu'un est tout le roi.
Oui, bien, exact.
J'ai des vagues souvenirs, je sais pas que.
Alors, vas-y, continue. Vas-y. C'est quoi le vêtement?
Chapitre
4.
Quand est-ce que ça a eu lieu?
Ça devait être en novembre ou en décembre 2006.
2006?
Ouais.
Waouh.
4 ans derrière.
On arrive. Bah oui, il indexe les chapitres.
Il doit avoir un truc
là. L'indexation. Il indexe les chapitres.
Décembre 2006.
Oui, c'est ça. Novembre
2006.
Chapitre
4,
décembre 2006.
Ouais. 2001. C'est à peu près, ça va, c'est pas...
à peu près. Au mois près, ça fait juste. Il y a novembre, décembre. On se voit tromper, nous.
Alors,
après ce quoi, c'était non, je veux...
Normal.
Monsieur Haussmann. Quand le soleil y brille à côté, on se
cache. Quand on donne un cours, c'est comme dans l'éducation. Quand c'est quelque chose qui nous a marqué, on se rappelle à quel âge de l'enfant ça s'est passé. Enfin, je pense. Quand il nous a marqué, on va dire oui.
C'est-à-dire que là, pour l'instant, on voit tous comme des enfants de 4 ans, 3 ans. Il y en a certains qui ont 2 mois. J'ai 1 mois.
On est imatata.
Alors. C'est un compliment, Imatata. Ima, c'est-à-dire que le souci du détail. Alors, qu'est-ce que je suis en train d'expliquer par rapport au soleil? D'accord. Je vais lire le crochet. J'ai sauté le crochet, mais je vais le lire maintenant. Chiare, kol achayut shebaem enorak or amit pachet mimena, ke or amit pachet mehashemesh. Ce qu'on retrouve dans le soleil, pourquoi on amène l'exemple du soleil? Et pourquoi on amène l'exemple du soleil? On a dit que le cerveau, c'est comme le soleil. Qu'est-ce qu'on a de spécial dans le soleil? Dans le soleil, on voit clairement que personne ne te dira qu'il y a un rayon qui est venu de soi-même. Un rayon, il ne vient pas tout seul. S'il y a un rayon, c'est que forcément il y a un soleil. Forcément, il y a eu un soleil derrière qui a envoyé ce rayon. Bien sûr qu'après, peut-être que ce rayon, il est reflété, il a changé de couleur, ce que tu veux, il a changé de forme, pas de problème. Mais il y a forcément une source. C'est obligé qu'il y ait une source. Sauf que, si tu viens te servir à la source, tu ne peux pas te servir. Tu vas brûler. Donc, puisque tu vas brûler, on va être obligé de passer par des levushim, par des vêtements, c'est-à-dire par des filtres. Par des filtres qui vont être là pour reprendre certaines caractéristiques de la lumière, pour te les transmettre. Par exemple, on va avoir des gens qui vont être capables de te prendre la lumière et de transformer ça en énergie. Quel rapport entre le soleil et l'énergie? On ne la voit pas, nous. Mais pourtant, on voit que le soleil peut faire de l'énergie. Le soleil peut faire bouger des voitures, peut faire bouger des choses. Comment c'est possible? Parce que ça, c'est le rôle du levush, le rôle du vêtement. C'est qu'il est là pour faire ressortir certaines caractéristiques que nous, on n'aurait pas vues à la base. Et que si tu viens à la base, t'es brûlé. T'es brûlé, il n'y a rien du tout. Donc c'est pour ça qu'on amène l'exemple du soleil. C'est la même chose par rapport au mochin, quand on parle du cerveau. Pourquoi? Et pourquoi on a amené l'exemple du cerveau et pas du cœur? Parce que finalement, c'est quoi le rôle du cœur? Qu'est-ce qui fait le cœur? Le cœur, c'est comme une pompe. C'est comme une pompe qui va faire tourner le sang. Bien sûr que le rôle du cœur est très important. Mais dans le cœur, c'est quelque chose de physique. C'est physique. On voit qu'il y a du sang qui tourne et que le sang qui est passé par le cœur, ben c'est le sang qui va passer par tout le corps. Donc si tu poses la question à quelqu'un, tu lui dis comment ça se fait que le sang il va faire bouger ton pied, il va dire bon, c'est vrai que le sang il vient du cœur, mais le sang maintenant il est dans le pied. C'est-à-dire on voit qu'il y a eu un sang qui est passé par le cœur et que maintenant il est arrivé dans le pied. Le sang a fait le tour du corps. Le problème qu'on a avec le cerveau, c'est quoi? C'est que le cerveau envoie des ordres. Un ordre, c'est pas physique. On est d'accord? Un ordre, c'est pas quelque chose de physique. On sait que le cerveau envoie des ordres, on sait que le cerveau envoie de l'énergie, mais c'est pas physique. C'est pas quelque chose comme le sang, que je peux dire, voilà, j'ai du sang qui est dans le pied, et je sais qu'il vient du cœur. Un ordre, c'est pas quelque chose de physique. Et ce qui va expliquer ici l'Admor HaZaken, c'est que si tu viens te servir à la source, tu pourras jamais comprendre. Pourquoi? C'est exactement comme le cerveau. Si, imaginons qu'on va prendre un scanner, on va voir ce qui se passe dans le cerveau. Qu'est-ce qu'on va voir? Est-ce qu'on va voir de l'énergie? Pas du tout, on verra pas de l'énergie. Pourquoi on verra pas de l'énergie? Parce que quand tu vas à la source, soit tu es ébloui, soit tu vois rien. Tu comprends pas. Pour être capable de comprendre ce qui se passe, il faut que la source s'exprime dans différents endroits. C'est comme le soleil. Tu vas venir au soleil. Imaginons qu'on va arriver au soleil, on va envoyer une sonde qui va arriver au soleil. D'accord? Qu'est-ce qu'elle va voir? Elle va rien voir. Elle pourra sentir de la chaleur peut-être, mais elle pourra rien voir. Pourquoi elle pourra rien voir? Parce qu'on est obligé de passer par un levouche. Pardon. On est obligé de passer par un levouche, par un vêtement, par un intermédiaire qui va nous permettre de récupérer certaines caractéristiques. C'est la même manière pour le cerveau. Comment on sait si le cerveau fonctionne? D'accord? Comment je sais si le cerveau fonctionne? C'est si le corps fonctionne. Donc quand on voit le cerveau, on ne sait pas ce qui se passe. Mais si je vois que le corps arrête de fonctionner, je comprends que le cerveau a arrêté d'envoyer l'ordre. Ça veut dire qu'on va comprendre ce qui se passe dans le cerveau seulement au travers de ce que le cerveau va transmettre au membre. Encore une fois, pourquoi il amène ici l'exemple du soleil? Très important. Prenez ici l'exemple du soleil. Pour nous montrer qu'il y a des fois des choses qu'on ne peut pas comprendre à la source, mais qu'après, lorsqu'elles vont être déployées, c'est là qu'elles vont commencer à prendre leur importance, comme le soleil. Le soleil, tu vas à la base. Comme il dit ici, je prends après le crochet. Qui Efchar, Léolamot, Lisbol ou les Kabel, Orshrinata, Chetishkol, Vetitlabesh, Betocham Mamash, Blolevou, Shamalim, Omastir, Orameem. De la même manière que le soleil, si tu ne passes pas par différents filtres, différentes couches, d'accord, couches d'ozone, ce que vous voulez, qui vont adapter la lumière, on ne pourra pas la recevoir. D'accord? Mais pourtant, on sait pertinemment que d'où ça vient. Ça vient du soleil. De la même manière, même si tout vient de chez Akadosh Baruch Hu, tout vient de cette fameuse Shekhina qu'on est en train d'expliquer ici, on va passer par différentes couches. Et là, je veux revenir à quelque chose qu'on a expliqué il n'y a pas longtemps dans un cours de Shabbat matin. Un cours de Shabbat matin, pour expliquer, je pense que c'est quelque chose de très important. Quelque chose de très important à comprendre. Et souvent je vois qu'il y a des gens qui bloquent sur ça dans des cours. Quand on dit par exemple que la Torah, hein, qu'il y a plusieurs niveaux, plusieurs paliers dans la Torah, on sait qu'il y a le Pshat, le Remez, le Drash et le Sod. C'est-à-dire que je prends un texte de la Torah, on peut l'étudier dans le Pshat, c'est le sens simple, on peut l'étudier dans le Remez, ça veut dire par l'allusion. C'est quoi l'allusion? L'allusion, ça veut dire par exemple, je veux dire que puisque le texte a été formulé de telle manière, ça veut dire que la Torah fait allusion à un détail que je n'aurais peut-être pas vu. Ensuite, troisième étape, c'est quoi? C'est le Drash. C'est quoi le Drash? Le Drash, en général, c'est quelque chose qui n'a aucun rapport avec le texte. D'accord? Mais bon, ça veut dire qu'on va s'inspirer du texte pour aller chercher quelque chose. C'est ce qu'on appelle le Midrash. D'accord? On va s'inspirer de quelque chose. On va dire, par exemple, on aurait dû dire ce mot, on a dit ce mot, donc c'est la Torah te donne un signe qu'il faut comprendre comme ça. Mais ça n'a rien à voir avec le mot. Et enfin, on a le quoi? On a le Sod. C'est quoi le Sod? Le Sod, c'est le secret de la Torah. Maintenant, le problème qu'on a à chaque fois, c'est quoi? C'est qu'on te dit que le même mot de la Torah peut avoir quatre sens. D'accord? Le même mot de la Torah. Alors l'exemple qu'on a amené au cours de Shabbat matin, c'était le cas de Amachalif para Bechamor. D'accord? Machalif para Bechamor, c'est un cas qui est ramené dans la Gemara Bava Metzia, 8e chapitre. Machalif para Bechamor, si une personne échange une vache avec un âne. Et donc il y a des lois là-bas, il y a quelqu'un qui a échangé une vache avec un âne, il y a eu des bébés entre temps, ils sont morts, etc. Bon, il y a eu des cas. Machalif para Bechamor. C'est un âne. Ça dépend de... Bon, Amachalif para Bechamor. D'accord? Donc nous, comment on étudie ça ici? Nous, comment on étudie ça ici? Ben, nous, on parle d'une vache et d'un âne, si tu veux. Maintenant, on dit que dans la yeshiva du Gan Eden, on étudie aussi cette halakha. Et pourtant, c'est écrit dans le Zohar dans plusieurs endroits, qu'avant que la personne monte au Gan Eden, j'espère, ou même au Gehinnom, on le fait passer par le.
Même quand on y est. Pas de problème.
On le fait passer par le ce qu'on appelle donc le Nahar Dinor, par un fleuve qu'on appelle le fleuve de Dinor. Bon, aujourd'hui il y en a qui appellent ça un tunnel. Bon, c'est quoi ce Nahar Dinor? Ce Nahar Dinor, on dit que c'est un fleuve par lequel on fait passer pour faire oublier à la Neshama, Chizu Dehay Alma, le look de ce monde. De quoi avait l'air ce monde? Ça veut dire que lorsque la Neshama arrive en haut, tu lui parles de matériel, tu lui parles de quelque chose de physique, c'est pas de quoi tu parles. Donc dans ce cas-là, Admor HaZaken il pose la question. D'autres endroits, dans l'écoute de Torah, il dit dans ce cas-là, ça veut dire quoi quand on a différents textes de Gemara, etc., dans lesquels on dit la yeshiva du Gan Eden. On a la fameuse machloket, par exemple, où on sait qu'il y avait une machloket entre la yeshiva du Gan Eden et la yeshiva d'en bas, et qu'Akadosh Baruch Hu a dit, la halakha est comme la yeshiva d'en bas. Mais comment on peut étudier la yeshiva dans le Gan Eden? Il n'y a pas de matériel là-bas. On va prendre le cas d'ici, à Machalif Parab et Hamor. Celui qui échange une vache avec un âne. Est-ce qu'il y a une vache et un âne en haut? Il n'y a pas de vache, il n'y a pas d'âne? D'accord. Très bien. Mais c'est des cas qui sont présents dans notre réalité. D'accord. C'est des cas qu'on comprend. C'est peut-être des cas qu'on n'utilisera jamais, mais c'est des cas qui font partie de notre réalité, notre vie. D'accord. Donc, comment on utilise ça au Gan Eden? Autre question pour Admor HaZaken. C'est dans Torah, on pose la question. Dis, c'est raconté. On va voir, justement. On va voir. Il donne un autre exemple. On nous raconte, on nous dit que lorsque Moshe Rabbeinu est venu, Agmara Shabbat, elle raconte, Daf Pechet, Agmara Shabbat, elle raconte, elle dit que le Psha Shaala Moshe Lamarom, lorsque Moshe Rabbeinu est monté dans le ciel pour récupérer la Torah, qu'est-ce qu'elle dit là-bas? Amru Malacha Sharet Fna Kadosh Baruch Hu. Les anges ont dit devant Kadosh Baruch Hu, d'accord? Ils ont dit, Mal Eilud Isha Beneinu. D'accord? Qu'est-ce qu'il fait là, quelqu'un qui est né d'une femme? Qui est né d'une femme. D'accord?
Zombie.
Alors, Akadosh Baruch Hu a répondu là-bas, il dit, il est venu pour prendre la Torah. Alors, le malach là-bas, la Gemara Shabbat a dit, les malachim, ils ont dit, comment tu veux donner la Torah à eux? Comment tu veux leur donner la Torah? Donne-la à nous. D'accord? Et qu'est-ce que Moshe Rabbeinu Ishmael leur répond? Ah non, pardon, alors là-bas, Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu, il dit, vas-y, réponds-leur. Il dit, vas-y, c'est un classique, ça, réponds-leur. Moshe Rabbeinu, il leur répond, il leur dit, Torah Matziva.
D'abord, il a dit, je ne me frotte pas.
Ouais. Mais après, il a dit, réponds.
Il a dit, vas-y.
Torah Matziva. Alors, Moshe Rabbeinu, il a commencé à dire, il dit, qu'est-ce qui est écrit dans la Torah? Il dit, Anochi Hashem Elokecha, on va commencer par les 10 commandements, par le plus simple. C'est écrit, Anochi Hashem Elokecha, Asher Yatsitira Meret Mitzrayim. Je suis Hashem ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte. Alors là-bas, Moshe Rabbeinu, il pose la question aux anges, il leur dit, le Mitzrayim Yaratem. Est-ce que vous étiez en Égypte? Les anges ne répondent pas. Ça veut dire que je n'ai pas de réponse. D'accord? Ensuite, il continue. Continue à donner différents exemples des 10 commandements. Comme, tu honoreras ton père et ta mère. Est-ce que vous avez un père, une mère? Tu n'auras pas le droit de voler. Est-ce que vous êtes tenté à voler? Est-ce que vous avez la jalousie entre vous? Etc. Là, Admor HaZaken, il pose la question, il dit, mais je comprends pas. C'est quoi ce malachim? Ils n'ont pas pensé aux questions de Moshe Rabbeinu. C'est évident que la Torah est pas pour eux. Mais ils ne comprenaient même pas ce qu'il y a écrit dans la Torah. On parle de notions qu'ils ne peuvent même pas comprendre, parce que c'est des notions qui ne font pas partie de leur réalité. D'accord?
C'est
des notions qui ne font pas partie de leur réalité. De là, il arrive à la conclusion suivante. Et c'est justement...
Pas du bon malachim, c'est déclaré, cela.
Oui, finalement, c'était simple à répondre.
Bien sûr que c'était simple. Mais c'est pas simple à répondre, c'était bête à poser.
Oui, c'était bête à poser.
Excuse-moi.
Et sur quel argument? Et quel argument que les malachim ils auraient? Si on avait posé aux malachim, quel argument ils auraient sorti?
Alors, donc on est obligé de dire que les malachim ils sont pas bêtes.
Bah oui.
Donc de là, Admor HaZaken arrive à la conclusion suivante. Et à mon avis, c'est très important.
C'est pas le même dépôt.
Très important à comprendre ça. Il dit qu'en vérité, on peut avoir une même notion qui peut être comprise, d'accord? On peut avoir une même notion qui peut être comprise de différentes manières. Il amène là-bas l'exemple du machal. D'accord? C'est une notion qu'on a développée donc, au cours du Shabbat matin, on a développé. La notion du machal. Quand j'essaie d'expliquer quelque chose à quelqu'un, et je vois qu'il n'arrive pas à comprendre, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui donner une parabole, un exemple. C'est quoi la définition d'une parabole? Comment je fais pour donner une parabole? Je vais essayer de trouver un cas qui est plus simple, qui fait partie de la réalité, donc qui fait partie de la réalité de la personne, qui est plus près de la réalité de la personne, et qui contient le même concept que le concept que je vais lui expliquer. Mais c'est en plus simple, d'accord? C'est plus simple. Donc je vais essayer de lui expliquer, d'accord? Ou en illustrer, mais ça veut dire que c'est le même concept, une illustration. Donc je vais lui montrer, Je veux dire, voilà, tu vois le concept, tu l'as compris, le concept. Donc maintenant, on va essayer d'appliquer ce concept à une notion qui est plus compliquée. Explique l'Admor HaZaken là-bas, en vérité, c'est quoi la Chorma d'Akadosh Baruch Hu, c'est quoi la Torah? La Torah, c'est des concepts. Et c'est un concept qui va s'adapter dans différentes réalités. Donc, on va reprendre l'exemple de tout à l'heure. Un machaliv para bechamor, celui qui échange une vache. Oui, bah d'abord, je vais juste taper ma chaise. Oui, oui, exact. On va prendre l'exemple de tout à l'heure. D'accord? Amachalif para bechamor, celui qui échange une vache, d'accord, avec un âne. Comment nous on étudie ça en bas, on a expliqué. Bah, c'est une vache physique avec un âne physique. Comment on étudie ça dans les Shiva du Gan Eden, où on ne sait pas ce que c'est une vache, on ne sait pas ce que c'est un âne. Là-bas, on va explique l'Admor HaZaken, il va dire c'est quoi para, c'est quoi chamor. Para, c'est l'âme animale, d'accord. C'est une âme animale qui a les caractéristiques d'une vache. C'est-à-dire, ça veut dire qu'il est plutôt sauvage. Chamor, c'est quoi? C'est une âme animale qui a les caractéristiques d'un âne. Et là-bas, l'Admor HaZaken explique, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il explique l'Admor HaZaken, comment on étudie ça dans les Shiva du Gan Eden à Machalif par Rabbi Chamor. On dit, si quelqu'un, il a une âme animale qui correspond à un âne, mais il va s'en occuper d'elle comme si c'était une vache. Ça n'a rien à voir avec la vache et l'âne. Nous, quand on étudie ça, c'est une transaction. C'est une transaction avec, on va aller au tribunal, va gérer. On s'aperçoit qu'au Gan Eden, on apprend, c'est complètement autre chose. Ça veut dire qu'en vérité, c'est des concepts. C'est des concepts qui vont s'adapter à chaque endroit. Je vais essayer de donner un autre exemple. D'accord ? C'est comme on retrouve l'exemple du concept dans les mathématiques. Vous prenez par exemple, on vous dit que 1 plus 1 est égal à 2. D'accord ? Donc j'ai fait 1 plus 1 est égal à 2. Ensuite, tu me dis 2 plus 2 est égal à 4. Donc c'est deux additions différentes. Deux additions qui concernent deux chiffres différents. Mais pourtant, c'est le même concept. Je me rappelle quand j'étais enfant, la première fois j'avais reçu une calculatrice, je me suis posé la question, je l'ai posé à mon père. Je lui ai dit, est-ce qu'on a enregistré dans la calculatrice toutes les combinaisons possibles? C'est-à-dire, est-ce qu'on a enregistré toutes les combinaisons possibles? On lui a dit, si un jour quelqu'un te demande 1 plus 1, tu répondras 2. Si un jour quelqu'un te demande 2 plus 2, tu répondras 4, etc. Et après, bon, ce que j'ai compris de moi-même, c'est que c'est pas du tout comme ça. C'est qu'on a appris à la calculatrice le concept, on lui a appris ce que c'est un chiffre, on lui a appris ce que c'est une addition. On dit voilà, quand on te présente deux chiffres, tu vas devoir les additionner. Maintenant, qu'on te présente 1 plus 1, ou qu'on te présente 2 plus 2, ou qu'on te présente 1000 plus 1000, ça ne change pas. Le concept sera toujours le même. C'est un concept, c'est le concept de l'addition. Le concept de la soustraction, le concept de la division, etc. C'est un concept. Ça, c'est un principe qu'on retrouve beaucoup dans les mathématiques. C'est la même chose par rapport à la Torah. C'est des concepts. C'est des concepts qui vont s'appliquer. Vous prenez, nous, on est 1 plus 1, donc nous, on s'arrête à 1 plus 1. Si je vous dis maintenant qu'au Gan Eden, ils sont à 1 million plus 1 million, ben, ils font 1 million plus 1 million. Pourtant, c'est la même notion, c'est le même concept. Bien que quand on compare le Machalif para bechamor de chez nous et le Machalif para bechamor d'ici, de Gan Eden, on dit qu'il n'y a pas de rapport, il n'y a pas photo. C'est sûr qu'il n'y a pas photo, mais le concept reste le même. C'est quand on échange des choses, dans le cas de Machalif para bechamor, c'est quand on échange des choses qui n'ont rien à voir. Pourquoi c'est très important à comprendre ce concept-là? Très important à comprendre pour comprendre que quand on étudie la Torah, il faut jamais s'arrêter au sens simple. Bien qu'il faut comprendre le sens simple, parce que la Torah l'a dit, donc ça existe aussi au sens simple. D'accord ? Et le concept est vrai au sens simple. Mais pourquoi on nous encourage toujours à aller encore plus loin et encore plus loin ? Parce que finalement, on essaie de nous montrer comment c'est un concept qu'on peut tirer beaucoup plus loin que ce qu'on pense. C'est ça le concept de Pshat, Remes, Drash, Sod. Comment ? La même notion de la Torah, eh ben on peut la décortiquer, et des fois, quand on essaye de faire le rapport entre les quatre explications distinctes qu'on a données, s'il n'y en a que quatre, d'accord ? Pardon, entre Pshat, Remes, Drash, Sod, il n'y a pas de rapport. Pourquoi il n'y a pas de rapport ? Parce qu'encore une fois, la notion, c'est qu'on prend à chaque fois, on va prendre un concept, le concept du verset, et on va l'appliquer à chaque endroit, selon la réalité de l'endroit. D'accord ? On va l'appliquer selon la réalité de l'endroit. C'est pour ça que dans le... Il y a une introduction que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a fait, on dit, en tout cas qu'il a dit à ses élèves, à la partie du Zohar qui s'appelle Hidra Rabba. Et dans cette introduction qu'il a fait, donc Hidra Rabba, Hidra Zuta. D'accord, c'est deux, vous savez que le Zohar qu'on a aujourd'hui a été découpé par les imprimeurs sur l'ordre des parachats. Mais à la base, il n'a jamais été... C'est les quelques dernières centaines d'années que c'était découpé comme ça. À la base, c'était pas comme ça. À la base, c'était des sections, le Zohar. Mais des sections. D'accord. Par exemple, on a Hidra Rabba, Hidra Zuta, Raya Memna, etc. Il y a plusieurs sections dans le Zohar. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, en tout cas, c'est une introduction qui est écrite juste avant Hidra Rabba. Dans Hidra Rabba, c'est le texte qu'on lit. C'est un des textes qu'on lit dans le... Comment on appelle ça? La Bilada, la nuit qu'on fait avant la Brit Mila, comment on appelle ça? La Bilada? Bon. Donc, le texte principal que, bon, tout le monde lit, d'accord, c'est un texte qui vient de Hydra Rabba. Hydra Rabba, dans lequel on dit donc un texte du Zohar. Maintenant, nous, on ne lit pas l'introduction de Rabbi Shimon Bar Yochai. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Shimon Bar Yochai dans cette introduction ? Rabbi Shimon Bar Yochai, il met en garde ses élèves. Il leur dit « Aru Raï Shacher Yase Pesel ou Masecha ». Maudit sera l'homme, donc il reprend un verset, d'accord, d'une des malédictions, qui dit « Maudit sera celui qui fera une idole de Kadosh Baruch Hu ». Pourquoi tout d'un coup il parle de ça ? Parce que dans Hydra Rabba, dans Hydra Zuta, il y a beaucoup de définitions qu'on a l'impression matérielles, beaucoup de définitions d'Akadosh Baruch Hu très, très physiques et très matérielles. Et c'est pour ça qu'il les met en garde. Avant, le Hydra Rabba a dit, attention, même si ce qu'on va expliquer, ça aura l'air de choses matérielles, mais il faut ce qu'il appelle là-bas les Hafshit, Advarim et Geshmiyutam. Ça veut dire qu'il faut savoir que c'est seulement une image qu'on est en train de te donner, mais en vérité, Akadosh Baruch Hu, c'est beaucoup plus fort que tout ça. C'est une des grandes erreurs qu'ils font dans les centres de Kabbalah, enfin dans les différentes sortes de Kabbalah, les Minéem, d'accord, c'est qu'ils vont prendre des textes de Kabbalah et qu'ils vont les traduire. C'est vrai que des fois, quand on lit des textes de Kabbalah, on a l'impression qu'il y a une histoire, qu'on va nous parler de choses physiques, alors qu'en vérité, c'est une mise en garde que Rabbi Shimon Bar Yochai a fait au début de Hydra Rabba pour dire que attention à ce que vous allez étudier. Maintenant, nous, cette mise en garde, nous, je ne sais pas si vous étiez au courant qu'il y avait cette mise en garde, d'accord, moi je n'étais pas au courant avant de le lire, et ni on l'a lu avant de lire le Hydra Rabba, on ne s'occupe pas de tout ça. Mais pourquoi on ne s'occupe pas de tout ça? Et là, je vais revenir à notre sujet. Qu'est-ce qu'on a expliqué par rapport au soleil? Par rapport au soleil, on a expliqué que quand tu es près du soleil, tu ne vois rien du tout. C'est seulement lorsque tu t'éloignes du soleil que tu dois commencer à chercher à te protéger et à accepter, etc. C'est de la même manière. Nous, qui sommes complètement à côté de la plaque par rapport au Zohar, on n'a pas besoin de nous mettre en garde. Pourquoi on n'a pas besoin de nous mettre en garde? Parce qu'on sait que de toutes les façons, on ne va rien comprendre. Donc puisqu'on sait que de toutes les façons, il n'y a rien à comprendre, on ne va pas comprendre. Donc on n'a pas besoin de nous mettre en garde. Ça me rappelle une histoire qu'on a racontée avant Pessah. L'histoire que la Gemara raconte à propos du livre de Ézéchiel. Écrit là-bas, la Gemara raconte, elle dit qu'il y avait un enfant, une fois, qui a étudié avec son professeur, à l'époque de la Gemara, le livre d'Ézéchiel. Et on dit que tellement il a étudié, qu'à un certain moment, sa Neshama est partie, il est parti de ce monde. Alors là-bas, la Gemara raconte, elle dit que suite à cette histoire, les Chachamim ont voulu interdire l'étude du livre d'Ézéchiel. Pas seulement interdire l'étude, ils ont voulu le cacher. D'accord ? Alors là-bas, la Gemara a dit que les Chachamim ont répondu, vous allez voir comment on va revenir à notre sujet tout de suite, la Gemara là-bas a dit que les Chachamim ont répondu à celui qui était, je ne sais plus qui c'est qui voulait le cacher, je crois que c'est Nathan Benouziel, je ne me rappelle plus. Là-bas, la Gemara a dit qu'ils lui ont dit, est-ce que parce que celui-là était Chacham, tous les enfants qui vont l'étudier sont Chachamim, tout le monde va étudier son Chachamim. En d'autres termes, la majorité des gens qui vont étudier Ézéchiel, je ne sais pas, il y a plusieurs parmi nous qui ont déjà étudié Ézéchiel, ils ne sont pas morts de ça. Ça veut dire quoi? Je reviens à notre histoire du soleil. Que si on vient se servir directement à la source, c'est soit, alors justement, je reviens à mon exemple du soleil, c'est soit tu es complètement à côté de la plaque. Ça veut dire que tu n'as pas du tout la lumière du soleil. Dans ce cas-là, on n'a pas besoin de te mettre en garde, on n'a pas besoin de quoi que ce soit, parce que de toutes les façons, tu ne vois rien. Bon, dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de te mettre en garde. C'est comme, imaginez-vous, quelqu'un qui est dans une maison. On est dans une maison, il y a très peu de lumière du soleil qui rentre. Tu n'as pas besoin de le mettre en garde, de faire attention au soleil. Parce qu'il n'y a rien, il n'y a rien qui rentre, il ne va rien avoir de ça. À partir de quel moment j'ai besoin de le mettre en garde? C'est lorsqu'il commence à comprendre quelque chose. C'est lorsqu'il commence à comprendre quelque chose. Ce qu'explique la Gemara Zaken ici, c'est exactement la même chose par rapport à la Shrina. Par rapport à la Shrina et par rapport à... Donc la Shrina, c'est la même chose. La Shrina, à la base, si on viendrait se servir, si on irait chercher à Kadosh Baruch Hu, si à Kadosh Baruch Hu ne serait pas passé par différents Levushim, par différents... Donc l'exemple qu'a dit Gabriel tout à l'heure avec le roi, qu'est-ce que tu as dit avec le roi? Le roi qui met... Avec des vêtements. Il a dit que... Exactement. L'exemple qu'il avait donné à la Gemara Zaken au chapitre 4, il a dit que lorsque tu enlaces un roi, peu importe qu'il a zéro vêtement, un vêtement ou 1000 vêtements, d'accord, donc, ce qui veut dire que s'il y a 1000 vêtements, ça veut dire que tu ne toucheras pas son corps, tu diras toujours que tu enlaces le roi. Et c'est la même chose pour la Shrina, c'est très important à comprendre. Je pense que c'est une notion de base. La notion qu'il faut comprendre, c'est que même si nous, quand on voit la Torah, on a l'impression qu'il y a différentes facettes, et que c'est encore plus profond, et c'est, des fois on ne comprend pas, et on se pose la question, mais finalement, qui est Akadosh Baruch Hu? Bon, là, on est dans le canal dédié. Dans le canal dédié à Akadosh Baruch Hu, donc se dévoile à nous. Donc si se dévoile, il faut bien qu'on comprenne. Alors on va trouver différentes manifestations d'Akadosh Baruch Hu. On se pose la question, mais qui est Akadosh Baruch Hu? Je ne comprends pas, Dieu a écrit une seule Torah. Comme on raconte une blague, une fois il y a... Bon, c'est une blague, hein. Une fois il y a les Bnei Israël qui ont... Une fois il y a les Juifs qui sont pleins à Akadosh Baruch Hu. Ils ont dit, écoute, Akadosh Baruch Hu, c'est pas qu'on veut pas accomplir cette Torah, mais on n'en peut plus, c'est trop dur. Quoi, les autres nations, ils ont 7 mitzvot, et déjà ils ont du mal à les faire, nous tu nous as donné 613. On peut plus, écoute, on a essayé, reprends-nous ta Torah. Bon, Akadosh Baruch Hu dit, pas de problème, je vous envoie l'ange Gabriel, l'ange Gabriel Gvura, il va venir tel jour, telle heure, telle place, il va venir et vous lui rendez la Torah, pas de problème. Donc le jour arrive, tout le monde prépare, ils amènent les livres de Torah, de Bah, etc. Ils arrivent tous avec leurs livres. Et l'ange Gabriel, il arrive avec une petite voiture. Alors, l'ange Gabriel dit, mais alors les gens ils disent, mais c'est tout, vous êtes venu avec une petite voiture. Et l'ange Gabriel regarde à côté, il dit, mais je comprends pas, on vous a donné 5 livres, c'est quoi tous ces livres-là? Et ça exprime ce que je suis en train d'expliquer ici, que même si on, quand on lit la Torah et quand on étudie la Torah, on a l'impression que c'est sans fin et qu'on est à chaque fois, que chaque fois que, comme la Gemara Chagigah elle dit, Dav Gimel, elle dit, En Bet Hamidrash Blochidush, que chaque fois qu'on révise, même si on révise le même sujet, c'est impossible qu'on n'a pas quelque chose de nouveau qu'on découvre. Donc on se pose la question, on se dit, mais c'est pas possible. Mais alors, qu'est-ce qu'il voulait réellement dire dans cette page de Gemara? Puisque chaque jour, je vais découvrir autre chose. Et je peux même découvrir des fois des choses contradictoires, complètement contraires à ce que j'avais pensé. Alors qu'est-ce qu'elle voulait dire cette page de Gemara? La réponse est avec la notion des concepts que je viens d'expliquer. La notion de la lumière du soleil. Que c'est un concept. 1 plus 1 est égal à 2, 2 plus 2 est égal à 4. C'est une notion, c'est un concept, c'est le concept de l'addition. C'est la même manière par rapport au soleil. Qu'est-ce que représente le soleil? Le soleil représente la luminosité, la clarté. Alors après un jour, quelqu'un il va te dire, ce sujet est lumineux, ce sujet est obscur. Bien qu'il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'obscurité. Parce qu'encore une fois, c'est le concept. On va emprunter un concept. C'est le concept. Est-ce que c'est lumineux ou est-ce que c'est obscur? Très bien. Maintenant qu'on a fait cette explication, on va en prendre dans les mots. J'espère que c'était pas trop long. Alors, on est dans les mots. Quelle heure il est?
Juste après la parenthèse.
Je m'attarde un peu plus dans ce chapitre sur les notions parce que je dis que c'est un chapitre. Ah non, avec plaisir. T'as des questions? Il n'y avait pas beaucoup de questions, donc je me demande est-ce que c'est pas clair ou est-ce que c'est clair.
Moi personnellement, je vois pas le lien.
Oui.
Entre les quatre noms, les quatre attributs ou les quatre manifestations de la Kadosh Baruch
Hu, oui.
Selon le canal, et puis ce que tu viens de dire.
Ce que je viens d'expliquer ici, c'est que même si nous, quand chacun il va s'imaginer à Kadosh Baruch Hu, il va s'imaginer d'une autre manière, d'une manière différente. Donc finalement, on va se poser la question, qui est à Kadosh Baruch Hu? D'accord? Et c'est pas seulement ça, je vais aller plus loin que ça encore. C'est qu'en nous-mêmes, chaque jour, on va découvrir encore une autre facette de Kadosh Baruch Hu. On va se demander, mais qui est Akadosh Baruch Hu? Et c'est là la notion des concepts. Tout à l'heure, vous avez dit un mot, monsieur Bélassin, j'ai oublié le mot que vous avez dit. Quand on a parlé des mots. Vous avez dit le mot, c'est la notion des mots. Quand j'ai posé la première question au début, quand j'ai dit, comment c'est possible, comment peut-il dire ça au Gan Eden?
Ça dépend de l'acceptation des mots, c'est-à-dire le sens qu'on donne au mot. Le même mot, il peut avoir une acceptation différente.
Oui, mais il y a une seule Torah.
Non, on dit para, non. Si aujourd'hui, sur Terre, para, ça veut dire une vache. C'est pas surprenant que dans un autre environnement,
oui.
Para peut signifier autre chose.
Donc c'est la notion des concepts.
Oui, bon.
Non.
Ce qui est
dérangeant ici, c'est qu'Akadosh Baruch Hu a donné une seule Torah. Et que quand Akadosh Baruch Hu a donné la Torah, il pensait bien à quelque chose. Et nous, ce qu'on veut expliquer, c'est que la Torah, c'est pas seulement une adaptation. On dit, bon, il y a une notion, il y a des concepts spirituels, on va les adapter à notre vie. Parce que si tu dis adapté, ça veut dire que c'est pas l'original. Nous, on veut l'original. C'est l'original qu'on veut. On veut pas perdre notre temps avec une adaptation. Et qu'est-ce qu'on nous répond avec la logique des couches? On dit que justement, il n'y a pas d'original. L'original, c'est le concept. Et c'est le concept qui va s'adapter à chacun des niveaux. Et c'est pour ça que, même au Gan Eden, chaque jour, on va découvrir encore autre chose. Parce que Dieu n'a pas donné, quand on dit que Dieu a donné la Torah, Dieu a donné un concept. D'accord? Et ça s'adapte. Et nous-mêmes, on le voit. Chaque jour, comme la Gemara Chagigah dit, En Bet Hamidrash Blo Chidush. Chaque jour, on va découvrir une autre facette. C'est-à-dire que chaque jour, on va adapter le concept de la Torah selon notre réalité, selon ce qu'on peut comprendre. Un exemple que je dis souvent, je dis, quand j'étais à l'école, quand j'avais l'âge de 5 ans, j'ai appris le Chumash. Aujourd'hui, quand j'apprends le Chumash, avec Rashi, il y a des fois des choses que je ne comprends pas, que je trouve compliquées. Pourtant, je ne me rappelle pas que quand j'étais à l'école, il y avait des choses que je ne comprenais pas. Je ne me rappelle pas de ça. Je me rappelle, parce que bon, il y avait des fois où on ne comprenait pas, on posait la question, on avait la réponse. D'accord ? C'est ça, on a fait bêcher. Et pourtant, tu comprends? Pourtant, on comprenait. Alors je me dis, mais qu'est-ce qu'on comprenait? Comment j'ai pu comprendre ça à 5 ans? C'est pas possible, je me suis pas posé toutes ces questions. C'est la notion du concept. C'est qu'on a compris quelque chose, mais après, quand tu pousses le concept plus loin, tu vois que dans la réalité, dans ce que ton cerveau, où ton cerveau peut arriver, il y a des choses, des fois, qu'on peut plus comprendre.
Bon. Et là, on parle de ces quatre sources.
ou de ces quatre manifestations. Non, les quatre sources, c'est un exemple que l'Admor HaZaken a amené. Il y a encore d'autres noms qu'il n'a pas, amené ici. Les quatre sources, c'est un exemple pour que l'Admor HaZaken a amené, pour nous montrer que la même Shrina, enfin la même manifestation d'Akadosh Baruch Hu, je dirais pardon, la même source, donc le cerveau d'Akadosh Baruch Hu, peut s'exprimer dans quatre canaux qui nous paraissent différents. Alors qu'en vérité, tous sont l'expression de la même source. Comment c'est possible? Et ça, c'est la logique des couches que je viens d'expliquer. Que selon la réalité de chacun, ben on va faire un dosage. Par exemple, des fois, on va plus sentir Akadosh Baruch Hu, ce souci du détail de notre vie. Chacun va faire un dosage selon la réalité de sa vie. C'est-à-dire qu'on va adapter un concept selon la réalité de notre vie. Dans les mots.
Parfois, tu parles de quatre concepts.
C'est les exemples qu'il a donnés pour expliquer que le même concept, c'est-à-dire on est parti d'un point, et ce point-là, il va s'exprimer de différentes manières. Et c'est un exemple seulement.
Il n'y en a pas que quatre, donc il n'y en a pas beaucoup.
Il y a quatre pistes, principalement. Il y a quatre grandes pistes. Après, tu peux avoir... Il y a quatre grandes pistes. Les quatre grandes pistes sont là. D'accord. Les
combinaisons.
Ouais, après, il y a les combinaisons. Les quatre grandes pistes sont là. C'est
la pondération de chaque combinaison.
Et c'est vrai, on le retrouve. C'est les quatre grandes pistes. C'est le côté qu'Akadosh Baruch Hu se dévoile à nous, le côté qu'Akadosh Baruch Hu nous dirige, le fait qu'Akadosh Baruch Hu se soucie de nos détails comme notre mère, et le fait qu'Akadosh Baruch Hu, on a dit, est présent sur nous. Il y a une certaine présence. Ce n'est pas une pression, c'est une présence. Shrina, Shochen. Comment on avait traduit il y a quelques... l'année dernière, à Tishri, on avait traduit...
Shochen, comment on traduit Shochen?
Comment on avait traduit Shrina?
Résider.
Résider, c'est pas une bonne... Pour exprimer le fait que quelque chose se trouve... c'est comme une... Bon, j'ai pas la traduction. On avait trouvé une traduction. Bon, on va finir jusqu'au point, on s'arrête.
Le fait de demeurer.
Alors, venez, on va finir jusqu'au point, on s'arrête. C'était assez compliqué pour aujourd'hui. Alors, donc on était en train de parler du soleil. Qu'est-ce qu'on a dit du soleil? C'est deux points qu'il faut retenir du soleil. C'est que premièrement, et ça c'est, je pense qu'on peut partir avec ça de ce cours, deux notions qu'on retient du soleil. D'accord? C'est quoi les deux notions? D'accord. Oui, bien sûr, ça c'est le canal Giloui. Deux notions qu'on retient du soleil. Première notion qu'on retient du soleil, c'est que c'est évident que s'il y a un rayon, il y a forcément un soleil qui est derrière. Donc s'il y a une énergie, il y a forcément quelqu'un qui a distribué cette énergie. S'il y a une énergie, il y a forcément le cerveau qui est derrière qui a distribué cette énergie, même si on ne le voit pas. Comme dans le soleil, même si je ne peux pas voir le soleil, c'est trop dangereux de m'approcher du soleil, mais il y a forcément un soleil. Ça, c'est la première notion. Et la deuxième notion qu'on a dit, c'est qu'un même rayon peut après, par différentes combinaisons, on va appeler ça les combinaisons, prendre différentes formes. Et ce n'est pas une contradiction, ça ne veut pas dire que ça ne vient pas d'un même soleil. Tout vient du même soleil. Seulement, le soleil envoie un concept, la lumière. Mais après, selon les réalités de l'endroit, par exemple, le soleil va taper sur la nappe rose, ben, tu auras de la lumière rose. La lumière haute parce que la lumière du soleil s'est adaptée aux réalités de l'endroit. C'est ce qu'on a expliqué avec, par rapport à la Torah Pshat Remet Rashtol. Dans les mots. Iefchar, on reprend Iefchar après le crochet, et on finit jusqu'au point. Iefchar, le Olamot, l'Isbol, ou les Kabel, Or, Shrinata, Shetishkon, Vetit la Bech, Betocham, Mamash, Blo, Levush, Amaralim, ou Mastir, Oram, Mehem, Sheloit, Batlou, Bintit, Pimkoram, Kevitou, Lorachemesh, Bimkoro. Qu'est-ce qu'on a expliqué? Si tu viens te servir directement à la source au soleil, tu vas brûler. T'es obligé de passer par des Levushim. On est obligé de passer par différentes adaptations. Et c'est ce qu'on fait. Pourquoi la Torah a été adaptée dans du physique? Pourquoi on n'a pas la Torah en brut? Parce qu'on peut pas, parce que sinon on n'aurait rien compris. Begouf Hashemesh, chez En Mir Esham, Orze, Rak et Tsem Gouf Hashemesh. Que si on serait parti au soleil, on n'aurait rien vu, il n'y a pas de dévoilement là-bas. Nous, à quel moment on peut ressentir la lumière du soleil? C'est seulement lorsqu'on s'éloigne du soleil. Et ça, c'est l'importance du cours la semaine prochaine, très important, dans lequel on va expliquer le rôle de la Torah. Le rôle de la Torah, vraiment on va expliquer que la Torah, c'est le cerveau d'Akadosh Baruch Hu. Et de la même manière que nous, quand je demande à quelqu'un ici, je lui dis, est-ce que tu sais que c'est le cerveau qui donne les ordres à ta main, le cerveau qui donne les ordres à tes pieds? Il va dire, mais non, ma main, elle a un rôle, mon pied, il a un rôle. Qu'est-ce qu'on dit que le cerveau, c'est pas possible, il y a la main, il y a le pied. Mais pourtant, on sait très bien aujourd'hui, qu'est-ce qu'on explique, que s'il y a la main qui bouge et le pied qui bouge, c'est-à-dire qu'il y a un cerveau qui a donné l'ordre. Ah, je ne vois pas le cerveau. C'est pas parce que tu ne vois pas qu'il n'existe pas. Tu ne le vois pas. Tu le vois au travers de ces manifestations, au travers des endroits où il s'est habillé, au travers de ces adaptations dans la réalité. Donc tu vas le voir au travers de la main, au travers du pied, au travers des yeux, au travers de la respiration, au travers de différentes choses. Ce qu'on va expliquer la semaine prochaine, c'est comment la chance que Kadosh Baruch Hu nous a donnée de retrouver ça dans la Torah et les mitzvot. Et pourquoi tout à l'heure j'ai repris celui qu'a dit Torah et j'ai dit rajouter mitzvot? Parce qu'on va expliquer la semaine prochaine que pourquoi il y a 613 mitzvot, pourquoi il n'y a pas une mitzvah. On va expliquer que les différentes mitzvot, on donnera des exemples, Ezrat Hashem, les différentes mitzvot sont différentes combinaisons et différentes manifestations d'Akadosh Baruch Hu, différents canaux, pour exprimer à chaque fois différentes choses. Pourquoi? Pour essayer d'appliquer le concept d'Akadosh Baruch Hu, le concept de la divinité, le concept de la Shekhinah, dans un maximum de facettes possibles de notre vie. Et ça, c'est le rôle de la Torah. C'est pour ça que la Torah, j'ai entendu une fois un rav qui a dit, la Torah, ce n'est pas une religion, mais c'est un mode de vie. Pourquoi c'est très important à comprendre ça? Pourquoi ce n'est pas une religion? Parce qu'une religion, ça veut dire qu'il y a moi, il y a la Torah, mais je ne peux pas l'appliquer dans chaque facette de ma vie. Quand on dit que la Torah, c'est un mode de vie, on voit que dans la Torah, on veut qu'on applique la Torah et qu'on amène la Torah à chaque partie de notre vie, même quand on travaille, on doit travailler selon les règles de la Torah. Pourquoi? C'est exactement ce qu'on est en train d'expliquer ici. C'est qu'à la base, Dieu nous a donné des concepts. Et il veut qu'on adapte ces concepts dans un maximum de facettes possibles de notre vie. C'est le rôle de la Torah, c'est le rôle des mitzvot, et c'est comme la lumière du soleil, comme on expliquera à Bezrat Hashem la semaine prochaine. Exactement.